Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 16 février 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, grand monstre de la BD, ciné, grand monstre du ciné, DVD, TV et grand monstre de la TV. Suite de ça, c'est du sport, résultat en sportif en direct des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite,
excuse-moi, je t'ai grillé la parole. Jazz Not Dead, c'est du reggae. 17h Big Bang, 18h Made in Trance, 19h Happy Hood, 20h30 la Cetero Experience, 21h 9 Love et à 23h le potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Ouh, la voix de grave.
Ça va?
Oui, oui, ça va. C'est quoi? C'est le contre-coup du retour de John Rambo, là? Tu as décidé de te faire greffer des couilles?
Non, c'est juste que j'ai fini mon fanart de Maliki hier soir très tard pour que ça parte avant minuit.
Ah oui, pour le tome 2. Reporté voilà. En mai, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ça.
Donc, Thomas est une midinette, et ça tombe bien parce qu'on l'a interviewé à Angoulême. Souillon, on passera l'interview du coup en mai. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui qu'on la passera. Intro du supplément week-end, scénario rock, glances and smiles. Et aujourd'hui, il y aura un chant de trèfle. It's not too late to make things change. Give me a chance to rearrange. Find a way to progress. Revenge, forget about it, it's too much stress. I tried it once, I still regret it. Why would you do the same? I wanna get my life on track. I'd like to know. coucou les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de bataille de t-shirts de geek. Puisque moi je suis content, j'ai le t-shirt du geek par excellence. Geek veut dire un peu paumé, nul, maladroit.
Tocard.
Tocard. Lui, c'en est un beau.
Oui, puisque The Dude, ça veut dire le tocard.
Voilà. Et voilà. Donc Thomas, lui, il a une geekette, plus exactement.
Qui est un ange en fait.
Et on se demande ce que va ramener du sport. Là, on s'inquiète un peu. Ça, on va parler tout à l'heure, mais c'est pas une BD qui est franchement très très bien. On va aussi parler d'un champ de trèfle.
Pour faire bucolique.
Voilà, c'est mignon, vous allez voir. C'est un gentil film, gentil. Comme c'est à l'approche des Césars, ben, on s'est dit, on va faire un hommage au cinéma français avec un film sans faux semblant, vraiment quelque chose, un petit peu cul à praline, il est vrai, mais sans action gratuite ou
du huis clos, avec voilà. Peu de personnages et vraiment un climat de tension et des choses qui reviennent à la surface autour d'un repas de famille, tout ça, c'est.
Et voilà, et après du sport va bien évidemment nous parler de télévision, mais comme il n'est pas arrivé et qu'il ne fournit pas son programme, nous on est bien emmerdés pour vous dire à l'avance de quoi il va parler.
Si, alors il sera question de Lip-Tuck, de séries anglaises et de séries inédites qui arrivent sur la télé française.
Grand Dieu.
Et il y aura aussi une semaine la chaîne Action cette semaine, on va voir.
Ah, bien, monsieur les connaisseurs. Comme chaque année, il y a plein de choses. C'est le mois du cinéma hein, en ce moment sur FMR, je vous rassure. Il y a les Oscars, il y a les Césars, et il y a aussi le Festival du cinéma de Monaco qui aura lieu prochainement et dont on vient de recevoir, c'est tout frais de ce matin, l'encre est encore fraîche sur notre téléscripteur, les sélections pour le prix de la meilleure bande dessinée adaptable au cinéma, un prix qui sera remis lors du 5e Festival du cinéma de Monaco qui aura lieu à partir du 8 mars sous la présidence d'Enki Bilal. Et figurez-vous qu'on avait un insider dedans, puisque parmi les votants, parmi les journalistes spécialisés membres du jury, il y a Thierry Belfoy, le présentateur du 20h de la RTBF, Daniel Couvreur, journaliste au soir, Jean-Philippe Lefebvre qui présente l'émission Un Monde de Bulles sur la chaîne publique Sénat, Pierre Vavasseur du Parisien Aujourd'hui et Didier Passamonique, directeur adjoint, de notre partenaire actuel BD. Et donc on a sous la main 5 titres qui ont été sélectionnés. Thomas, peut-être que tu peux les donner ?
Oui, tout à fait. Il s'agit de Il était une fois en France par Fabien Nury et Sylvain Vallée. Mmh. Et chez Glénat, il y a Kiki de Montparnasse.
On va encore parler de la Seconde Guerre mondiale, devoir de mémoire.
Voilà.
Kiki de Montparnasse, voilà. Donc qui a déjà été récompensé par un essentiel du public au Festival d'Angoulême.
Hergé de Pierre Dragon et Frédéric Peters.
Lui aussi, il a été récompensé à Angoulême.
Trois ombres de Cyril Pedrosa.
Un conte fantastique à la fois tendre et sombre. Excusez-moi, je fais de l'emphase.
Et quintette de Franck Giroux et Bonin, Gillon, Alessandrini, Cuso et Crène.
Franck Giroux qui est un gros spécialiste du roman, je vais dire en robe, on peut pas dire historique puisqu'en général c'est l'anticipation autour d'une histoire. Et là Franck Giroux s'est remis dans la Première Guerre mondiale, un thème qu'il avait déjà traité avec Louis Ferchaud, l'histoire qu'il y a avant Louis Laguigne. Verdict le 8 mars avec un peu de chance pendant le supplément week-end. Accessoirement, qu'est-ce que l'on a d'autre à annoncer ? On peut vous dire qu'il y a 2 séances de dédicaces que l'on va beaucoup suivre à la librairie Album XB Dessiné. Thomas Zuelos, vendredi 22, c'est-à-dire vendredi la semaine prochaine, à partir de 15h30, dédicacera ses albums BD Télémaque, Akhenaton et Abigail Martini. C'est sorti aux éditions Carabas chez Semic. Alan Lee, lui, est un auteur plus que confirmé et va faire sauter de joie plein de gens rien qu'à l'annonce de son nom et en disant qu'il vient mardi 26 février à 16h30 à Album. puisque c'est un illustrateur tolkieniste. Il y a eu deux grands illustrateurs tolkienistes. Lui, c'est le deuxième. Il a participé aussi aux adaptations sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a sorti par exemple un recueil d'illustrations Enfants de Hurin autour de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, c'est aux éditions Bourgeois. Et il sera donc en dédicace, mais à mon avis il va pas falloir s'attendre à avoir des superbes aquarelles qu'il fait et des dessins qui tapent sa race.
Ouais, en fait il sera là surtout pour dédicacer, enfin pour signer ouais, des certains ouvrages, mais surtout pour papoter avec l'équipe d'albums et avec les gens qui seront là. T'as dit que c'était le deuxième illustrateur officiel, puisqu'il y en a un autre, c'est John Howe, qui lui est plus spécialisé dans tout ce qui est accessoires médiévaux, armures, épées, oui, etc. Et plus fantastique, alors que Alan Lee dessine surtout des décors grandioses comme le gouffre de Helm, etc.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retrouvé justement tous les décors qu'il a dessinés officiellement dans le film et que c'est exceptionnellement bien reconstitué. C'était à tomber littéralement. Donc n'hésitez pas, ce sera une rencontre donc plus qu'une séance de dédicace. Et évidemment, je pense qu'il va mieux falloir parler anglais quand même. Hein. Ça, c'est un avis personnel. Ce sera à voir. On reste dans le fantastique, dans tout à fait autre chose, avec... Et là, il faut que je la fasse de manière cinéma de quartier. Avec le journal de Serge Clerc, chez De Noël Graphique. 1974, frappé par l'illumination divine, Jean-Pierre Dionnet fonde un magazine de bande dessinée de science-fiction. Pour être dans l'esprit du moment, il débauche Phil Mann, alias Philippe Manœuvre, journaliste rock, toujours sur la brèche du rock and folk, spécialiste de la chronique de concert vue sur la fin et de la descente de cocktail, un gonzo reporter à la française. Autour d'eux, un casting de rêve, Moebius, Philippe Druyer, Bernard Facas, bref, les grands et les futurs grands de la bande dessinée. Sans capitaux, monté sur un coup de tête dans une petite mansarde sous les toits, l'aventure s'annonce folle comme sa vision pour un lectorat exigeant, mais très rare. Rédac-chef improvisé Dionnet, qui n'a aucune connaissance commerciale, mais juste une envie de qualité et d'une bande dessinée réellement adulte, apprend sur le tas, tout en livrant des scénarios pour des dessinateurs comme Enki Bilal. Serge Clerc entre dans la rédaction de Métal Hurlant au 10e numéro. Monté de sa province natale et abandonnant derrière lui un fanzine prometteur d'une très courte carrière, il arrive à Metal et découvre tout. JP et Philman deviendront ses mentors, lui inculquant classique et incunable de la culture de base. Le rock, le film des années 50, les polars, le chic, les soirées arrosées avec style, les séries télé, le design, les comics, les pulps, et lui ouvrant son carnet d'adresses comme Manchette qui édite déjà de la science-fiction. Une époque folle où un journal jongle entre les interdictions de la censure, les périls financiers et les difficultés de distribution et ses bouclages. Malgré tout, la machine rêvée s'emballe, l'épopée s'annonce épique. Serge Clerc, le journal donc... qui raconte donc une époque folle où un journal Métal Hurlant jongle entre les interdictions de la censure, les périls financiers, les difficultés de distribution et ses bouclages. Malgré tout, la machine à rêver s'emballe, car cette histoire arrive juste avant l'explosion du punk. Quoi de plus paranormal que ce mouvement musical éructant « No Future » corresponde bien aux années dorées d'un journal de science-fiction, car cette époque... vit débarquer dans les salles obscures, Blade Runner, Star Wars, Rencontre du Troisième Type, Brésil. Le futur n'a jamais été autant d'actualité qu'au moment des rockers à crête et à épingle à nourrice. Serge Clerc, lui, va se lier avec Denis Cyr, Ted Benoît, Joss Svart et Yves Chaland. Ensemble, ils transformeront le style graphique si désuet de Hergé, Franquin, de Saint-Augan, Machereau et Jacobs, au rang d'art des purs ultimes du 9e art, la fameuse ligne claire. Quel nom prédestiné, Serge Clerc, finalement. Et quitte à admirer ces dessinateurs de leur enfance, ils maintiendront cette intemporalité, ce rétrofuturisme des années 1950 avec son mélange art déco moderniste et néon. Pendant ce temps-là, Metal Hurlant croule sur les dettes, se fait racheter par son imprimeur espagnol. Jean-Pierre Dionné part dans un délire et vit à crédit dans un hôtel particulier avec majordome, tandis que Philippe Manœuvre, toujours aussi chic, fait complètement tâche dans les soirées punk. Jean-Pierre Lescure les repêchera et poussera les enfants du rock à la télé. Là encore, quel nom prédestiné... Excusez-moi, c'était fait exprès. Le journal de Serge Clair arrive en même temps que le Futuropolis de Claire Sestac. Livre sortant au même moment, sur le même principe autobiographique...
Florence, excuse-moi.
En noir et blanc. Parlant de la même époque et du même tournant pour la bande dessinée adulte. D'ailleurs, de nombreux acteurs de cette époque sont présents dans les deux ouvrages. Mais si le livre de Florence Sestac, en plus d'avoir eu une bonne promo, s'attelle à donner son témoignage d'éditeur, celui de Serge Clair, justement, raconte plutôt son témoignage d'auteur, raconte principalement les vies de Jean-Pierre Dionné et de Philippe Manœuvre. Comme si leurs aventures étaient justement contées dans Metal Hurlant. Bourré d'allusions graphiques au film de la RKO, au conte de la crypte et au journal de Spirou, sans compter une bande-son qui arrache les tépases, ce n'est pas la véracité qui importe, mais l'esprit dans lequel vivaient les acteurs de l'époque dans leur délire, et immergés dans les BD qu'ils publiaient ou les radios qu'ils écoutaient. Bon, éphémère pas encore à Paris à l'époque, mais quand même. C'est décalé, un vrai trésor à lire à la loupe, à mille années-lumière du « c'était mieux à 20 » et qu'on aurait pu croire. Résultat, un traitement absolument à hurler de rire. Alors, toi le jeune, achète les deux livres, prends la peine de te pencher dans ce graphisme anguleux, stylisé et surchargé, que tu trouveras sûrement repoussant, mais qui a tant nourri la publicité. Et tu vas me dire
« Mais c'est qui ce taré de Dionné ?»
Ce à quoi je te répondrai qui nous a fait découvrir les polars sud-coréens, mon voisin Totoro et les Tsuark. Le geek ultime qui...
Tsuark.
Et le geek ultime qui en ce moment disperse aux enchères sa gigantesque collection d'incunables sur les 7e et 9e art. L'homme qui pour nous au supplément week-end est l'envoyé de Dieu sur Terre. Le prophète de la contre-culture. T'aurais pas eu Dionné, t'aurais pas vu Akira. Serge Clair, le journal, c'est sorti chez De Noël Graphique et comment dire... Bon voilà, je me suis emporté. Bah, c'est un bon bouquin. Par contre, il faut s'y plonger graphiquement, il faut apprécier. Thomas me l'a immédiatement chippé sous les yeux, mais...
Ah, pas du tout. Puisque moi, je me suis tapé quand même l'anthologie rétrospective de l'aventure Metal Hurlant.
Alors justement, je voulais avoir ta comparaison.
Eh bien, je ne peux que comparer ce que j'ai lu, donc comme j'en ai lu qu'un...
Mais justement, quel a été l'angle qui a été choisi
En fait, c'est un recueil uniquement de témoignages, en fait. C'est divisé en chapitres, mais tout le texte en fait du bouquin, ce n'est que des témoignages où les gens expliquent. Voilà, donc il y a pas de narration, c'est une suite d'interviews. C'est pas mal comme procédé. Mmh. Et on voit justement donc Dionné au départ qui avec Giro, avec Drouillet, qui avait commencé à fonder Metal Hurlant, et puis quand Philippe Manœuvre est arrivé, ça a été les années fric, les années chic, puisqu'ils ont ils sont aperçus qu'ils avaient ils s'éclataient beaucoup plus à faire de la télé plutôt qu'à faire Metal Hurlant, donc du coup Dionné a délaissé Metal Hurlant, Manœuvre aussi, et donc il racontait aussi qu'à un moment donné il s'était fait attaquer parce que Dionné avait utilisé le Concorde pour aller dans des soirées, aller chez Castel, tout ça, il avait toutes les filles à ses pieds, donc les gens qui étaient devant la planche de dessinée à Metal Hurlant, qu'est-ce que tu nous fais là ?
Qui étaient payés des fois avec retard.
Voilà, il disait aussi que les planches et les appareils pour scanner les planches étaient, ça servait pour faire des rails de coke, hein, puisque c'était le seul endroit propre.
Ah oui, oui.
Et non, c'était, on en apprend quelques-unes, ouais.
En tout cas, il y a plein de trucs graphiques, c'est pour ça qu'il faut s'y jeter dans le bouquin, vraiment y aller à fond. C'est énormément romancé, mais justement, il y a tous les non-dits. Serge Clair n'a pas osé dire certaines choses, peut-être qu'il a honte, peut-être qu'il n'ose pas le raconter à ses enfants maintenant. Mais en tout cas, c'est justement extrêmement amusant de revoir toute cette époque complètement folle, l'ascension complètement furieuse, et en même temps Metal Hurlant qui n'avait aucun capital, donc qui était un journal qui survivait au jour le jour littéralement, alors que Philippe Manœuvre expliquait à Serge Clair que « Ah, mais achète-toi un costume, tiens, regarde, cette cravate, elle est très chic et tout ça. » C'est complètement délirant et c'est voilà, du no futur pur et dur, un esprit, je vais dire, de pionnier, littéralement. Je vais pas dire de la science-fiction, mais vraiment de pionnier de la machine à rêver, et un peu ce dont on a eu comme héritier le début de Canal+, les enfants du rock à la télé, et dont FMR s'est toujours revendiqué, finalement. je m'étonne, il y avait des fondateurs à la radio, ils ont même pas foncé sur le bouquin. Ils ont pas relevé. Par contre, ils ont lu le Sestak.
Oh, t'inquiète, ils nous écoutent pas.
Bah, bien sûr. Midi 20 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end. Un scénario de gang, un dessin de Thomas Laboureau et couleur de Christian Leroy. Les Geeks, premier tome s'appelle Un clavier AZERTY en vaut deux. C'est chez Soleil, alors déjà rien qu'au jeu de mots du début, vous allez vous dire oulala, je comprends pas tout, oulala, franchement c'est tiré par les cheveux. Ils sont cinq jeunes post-acnéiques, récupérablement vissés à leur clavier, cultivant le bronzage à l'écran plat. Cinq jeunes geeks, alter ego du collectif Gang, scénariste de cette série, et surtout victime de la vie quotidienne. Car le monde ne les comprend désespérément pas. Les délices de l'overclocking, les débats politiques sur la carrière du sénateur Palpatine, les joies du ping réduit pour jouer au FPS First Person Shooter, et du t-shirt aux cryptiques références. Mais faute de goût, l'album est un format on ne peut plus grand public. 48 pages, couleur, cartonné, format A4, histoire cavenassée au format gaga en une planche, et à vrai dire, persévérant dans sa lecture, le geek sera bien déçu d'y retrouver bien des gags déjà vus et revus. Par exemple dans la série télé The IT Crowd, les citations de fortune de Bash Schaeffer, ou reprisées de sites comme Copines de Geek. Alors oui, les situations sentent bien le vécu, le survécu, le quotidien absolu. Avec son aspect un peu déprimant, celui d'avoir l'impression de jamais être sur la même sphère que les autres, et son humour surréalistement involontaire. Les Geeks est une BD qui veut faire rire les geeks, mais qui ne touchera que la cible des pseudo-geeks. Ceux qui se prennent pour les rois du monde en bidouillant Regedit sous Windows, admirent des poseurs comme Kevin Mitnick et Kiki Kolol dans les forums uniquement pour se mesurer face aux noobs. Ils seront pas dépaysés en y retrouvant les mêmes gimmicks que de mise en scène que Caméra Café. Pas franchement geek, mais parfaitement calibré pour les linéaires de supermarché. Et je saluerai un bel effort, celui d'avoir utilisé le design du logiciel Firefox en une. Ça change quand même d'Internet Explorer. Quoique je crois me souvenir que dans le journal qui était sorti chez Ego Comics, hein, j'ai oublié le nom de l'auteur du journal, en 99 il y avait en 2000 excusez-moi il y avait Mozilla, l'ancêtre de Firefox, qui était utilisé, celui qui avait pris la place de Netscape. Bon, allez hop. Gang, Thomas Laboureau, Christian Leroy, Les Geeks, le premier tome s'appelle Un clavier AZERTY en vaut deux, c'est chez Soleil. Oh ouais, bon, ok, allez, c'est drôle, mais c'est surtout pour ceux qui veulent comprendre ce que sont les geeks dans leur tête. Et oui, là, ça les fera rire. Alexis Robin, Nathalie Baird, Borderline, c'est une nouvelle série. Là aussi, le premier tome s'appelle Les mots de la nuit, c'est dans la collection Grand Angle chez Bambou. Fernando Villa est écrivain, celui qui a été salué par la critique et les chiffres de vente pour son premier roman il y a 2 ans. Et depuis, absolument rien d'autre. La grande angoisse de la page blanche, il est totalement incapable d'écrire quoi que ce soit, bloqué, sans aucune idée forte. Quoi qu'il tombe comme texte, ben, il trouve ça nul, convenu. Alors il tourne en rond dans son appartement et quand il en a marre des coups de fil de sa banquière et de son éditeur, il va boire un café dehors avec Wanda. Une pute qu'il paie pour ça, mais avec qui il ne couche pas. Au lendemain d'une soirée bien arrosée où il en est ressorti bien fumé quand même, hein, tout va se débloquer. Sans aucun souvenir de sa nuit, il va se réveiller sous une masse de feuilles gribouillées d'une écriture dément, furieuse et jamais, jamais il n'a écrit quelque chose aussi bon. Son roman raconte le calvaire d'une femme maltraitée et un jour, son mari récupère une jeune fugueuse, l'héberge chez eux, la violence de l'homme se reportera sur la jeune femme. Même ses copains restent pantois devant l'enthousiasme de l'auteur à raconter un truc aussi morbide. Groic, au moment de la sortie du roman, le nom qu'il croyait avoir inventé correspond à un homme réel, qui habite dans le village alsacien cité dans sa fiction. Et cet homme-là n'est vraiment pas content et a décidé d'en découdre devant la justice. Polar ou fantastique, l'histoire commence bien gentiment, mais dérive de plus en plus vers le sordide, avec une dimension sociale, comme les romans de la noire. On est surpris de la noirceur du scénario, justement, et vu que la couleur est très très lumineuse. Un album très clair, mais c'est assez trompeur. Et un très 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 bon album, mais on se demande comment les auteurs vont faire pour nous pondre un deuxième tome. Borderline, le premier tome s'appelle Les mots de la nuit, et il a été scénarisé par Alexis Robin, dessiné par Nathalie Baird, vient de sortir dans la collection Grand Angle chez Bambou.
Alors moi, le personnage principal m'a fait penser à quelqu'un. Le dessinateur s'est inspiré quelqu'un, c'est assez flagrant quand même.
Ah, j'y ai pensé.
Et je m'étonne que tu ne l'aies pas mis dans ta chronique.
Non, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'est pas aussi grand.
Du sport est en train de regarder, mais là sur la couverture, tu vas pas te faire trop une idée. Alors attends.
Et il n'a pas l'air aussi grand justement que l'acteur voilà. En question.
Là, dans cette image là, tu vas reconnaître. Du sport est mort de rire.
Voilà, c'est Jean Reno, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, plus exactement. Marazano au scénario, Jean-Michel Posio au dessin, Le complexe du chimpanzé, le tome 2 de cette triptyque vient de sortir, il s'appelle Les fils d'Arès, il vient de sortir donc chez Dargo. Grosse stupeur dans l'armée américaine, un engin spatial a échoué dans l'océan Indien. L'appareil semble ancien, des premières missions spatiales, mais surtout, les deux astronautes qui y étaient dedans sont convaincus d'être Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Les deux premiers hommes à avoir marché sur la Lune, frais et pimpants, 2035, mais persuadés d'être en 1969. 65 ans dans l'espace, improbable ou supercherie. Les deux malheureux astronautes ne pourront rien dire car ils mourront quelques heures plus tard, instantanément momifiés. Un mystère classé secret défense sur lequel est mis Ellen Freeman, astronaute brillante de la NASA qui a passé sa vie à s'entraîner pour sa première mission vers Mars. Une nouvelle course aux étoiles qui vient d'être financièrement annulée, à son grand désespoir, mais à la plus grande joie de sa fille Sophia qui ne voit presque jamais sa maman. Le mystère s'éclaircit quand, envoyée secrètement sur la Lune, Ellen, son équipe d'astronautes, découvre l'enregistrement d'un message russe qui semble avoir été émis depuis Mars. Mars, la planète que rêvait de fouler Ellen en tant que première humaine. Elle va finalement y partir, mais sans les caméras, dans le plus grand secret, pour essayer de comprendre tous ces paradoxes et comment, notamment pourquoi, les plus grands noms de l'exploration spatiale réapparaissent 60 ans plus tard. Sera-t-elle victime du complexe du chimpanzé ? L'angoisse violente et absolue d'être l'objet d'une expérience qu'elle sera incapable de maîtriser. Gros regret graphique, la gestuelle trop statique, exagérée des personnages qui trahit l'usage d'une sorte de rotoscoping, d'une décalque de photos.
Grave.
Que nous avons déjà étrié pour un autre album du même dessinateur, Dernier Exil, sorti chez Carabas, du même Jean-Michel Pozio. C'était lui. Si enfin les couleurs sont un peu mieux gérées, le manque d'expérience du dessinateur, de maîtrise de la mise en scène et des poses horriblement figées, les personnages desservent un scénario très bien monté. D'ailleurs, je montre justement qu'il n'arrive pas à créer, c'est les visages de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin dans le premier tome. Il les a pas dessinés parce qu'il avait sûrement pas de photos comme il le voulait. Et il n'arrête pas de changer de point de vue de cadrage de ses cases. Il n'arrive pas à avoir un cadrage constant, donc c'est un petit peu flagrant quoi à partir de là. Alors j'ai pas boudé mon plaisir à lire l'histoire, mais le dessin décalqué m'a sérieusement fait tiquer, pour pas dire que j'ai pas trop aimé du tout. Et c'est dommage parce qu'il y avait de l'idée. Richard Marazzano, Jean-Michel Pozio au dessin. Le complexe du chimpanzé, le tome 2 sur 3 s'appelle Les Fils d'Arès et c'est sorti chez Dark.
I'm the Earthshaker, the Earthquaker, code name, Peacemaker. I cover the whole universe, Saturn, Venus, the Moon and Mars. I'm the power and the thunderbolt, the twinkle in all the stars. The original Earth satellite, you can't see me, 'cause I'm really out of sight. I take care of all the problems in the world. Local, national, international, universal. Even show you how to keep peace with all the girls. Now I take all the chances and never fail. 'Cause I dine on all the power of space and wash it down with atomic cocktails. If you need me, don't despair, I'll be there. Smile, dial, my mind, mine. L-O-V-E. Love, yeah. My work is never done, and when I fight, don't need a gun. Why I'm so cool, I can freeze the heart of the sun. The original day tripper, looking for a fight. Hipper than the Big Dipper. Mission? make the whole wide world right. Just ask Uncle Sam, who really brought the peace to Vietnam. He'll say right away, the Earthshaker, the Earthquaker, code name, Peacemaker.
Richard Strauss featuring Roscoe, Peacemaker.
Eh ben, gros nul, PC de mes burnes. Putain.
Bon, le PC est en rade. Excusez.
Éphémère.
Excusez-moi. Oui, tu disais, Thomas.
Je disais que ce silence vous est offert par Radio Éphémère.
Oh non, mais ça c'est normal. Mais de toute façon, là, un peu ras-le-bol. Alors, je vais essayer de retrouver l'habillage à la volée. Mais le PC est en rade, officiellement.
Ah bah ça tombe bien, on fait une spéciale geek aujourd'hui.
Et sous quel OS ?
On veut pas savoir. Cinéma vous est présenté en Dolby Mono Surround par Thomas.
Alors avant de commencer la chronique du film d'aujourd'hui, c'est juste rappeler le décès de Roy Scheider qui a eu lieu cette semaine. Ah, je te coupe l'herbe sous le pied. Bon, mais ok, mais je te laisse parler tout à l'heure.
Non, mais pas du tout. Non, mais justement dans ma programmation, j'avais du Roy Scheider justement. Quoi.
Ah d'accord.
Ah ouais.
Ah comme quoi.
Bon, c'était l'excellent surveillant.
Surveillant de baignade dans voilà, Les Dents de la Mer.
Les Dents de la Mer, et qui avait joué chez Friedkin aussi, je crois, qui jouait dans Little Big Man.
Ouais, il avait joué dans une
daube. Marathon Dobe, Man.
Dans une daube aussi.
Les Dents de la Mer.
Tonnerre de feu, tu te rappelles le film avec l'hélicoptère là.
Oui, oui. Tonnerre de feu, oui, tout à fait.
Celui où il s'amuse à faire des loopings et à jouer.
Attends, Tonnerre de feu, c'était de John Badham, il était pas si mauvais ce film.
Ouais. Bon d'accord.
Bon allez.
Course poursuite en hélico en plein LA, bof.
Alors qu'est-ce que tu nous mets comme musique là? C'est pas celle qu'on avait décidé.
Non parce que du coup je suis obligé de jongler avec le baladeur donc.
Ah
voilà.
D'accord, donc l'autre il va arriver après.
Elle arrive là.
Ah petit plaisir hein.
Voilà, Thomas il m'a retrouvé une bande son d'un vieux film des années 50.
Voilà, de 1954. Un film de Inoshiro Honda, Godzilla. Alors, aujourd'hui, nous parlons évidemment d'un champ de trèfle, Cloverfield, film de Matt Reeves. Et donc, à New York, un groupe de jeunes adultes organise une soirée surprise d'adieu pour un de leurs potes qui va partir au Japon. Et au même moment, une créature géante dévaste Manhattan et un petit groupe va se former pour aller secourir l'ex-copine du néo-japonais, justement, qui est restée prisonnière de son immeuble. Et donc voilà, alors déjà, petit clin d'œil, le mec, c'est pas innocent qu'il va bosser au Japon, hein.
Gros
hommage au Kaiju Ega, hein, c'est le film de monstres japonais, de monstres géants. Et donc c'est un film qui est produit par J.J. Abrams, alors ça a été dit partout, mais je le dis quand même, parce que bon, si vous avez vécu en Patagonie, que vous êtes pas au courant. Donc c'est le mec qui a produit Alias, Lost, Felicity... Et qui a réalisé Mission Impossible 3 et qui prépare et qui est en train de réaliser en ce moment la prochaine adaptation de Star Trek.
Ouais. Alors je sais pas si t'as remarqué, c'est une petite parenthèse, je sais pas si t'as remarqué, mais quand on fait le CV de Monsieur J.J. Abrams, quoi, on dit Mission Impossible, on dit Lost, mais on cite très peu Felicity, très peu. Pourtant, ça a été l'une des premières séries qu'il a fait connaître. Bon, il était déjà connu avant en tant que scénariste, mais dans le cercle fermé, on va dire des scénaristes. Et quand il a créé Felicity, justement, il a commencé à avoir un petit peu de un petit peu d'épaule, quoi, et ce qui lui a permis justement, quoi, d'imposer un petit peu ses visions sur les autres séries. Mais Felicity, c'était une série qui a très très bien marché aux États-Unis, mais qui n'a pas du tout connu de succès quand elle a été diffusée en France, parce que bon, il y avait quand même, c'était une histoire sentimentale, l'histoire d'une fille de la campagne qui débarque à New York, dans une grande ville, dans une méga cité, et qui va essayer de se faire une vie, de se faire des amis, l'histoire est vraiment très très bien. Bon, bah, c'est un certain style. Si vous cherchez du baston, de la castagne, c'est pas ce genre de série du tout. Mais c'est vrai que pour Felicity, quoi, il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place, parce que vraiment une série qui a bien marché aux États-Unis au niveau terme d'audience, mais c'est un pan d'ombre, hein, que J.J. Abrams peut-être ne le fait pas volontairement, mais il y a pas mal de gens qui ont envie de laisser de côté ce petit truc-là, parce que bon. Vu la suite de la carrière que J.J. Abrams fait, Felicity, c'est un peu une tâche quand même. Enfin,
d'accord.
C'est un petit peu décalé, quoi, on va dire.
Et tu disais que si on aime la baston et l'action, c'est pas vers Felicity qu'il faut se tourner. Il faut savoir que J.J. Abrams, c'est bien rattrapé après. Hein. Donc il faut savoir aussi que J.J. Abrams, il aime bien réutiliser les recettes de ses séries à succès, puisque on en avait fait une chronique gag quand Mission Impossible 3 était sorti. Ce film réutilisait les recettes d'Alias, puisque pour l'action ludique, le film qui commence par la fin, la sophistication des décors, le glamour, tout ça. Et donc Lost, on peut dire que Lost a inspiré un peu Cloverfield, puisqu'on retrouve un peu la même volonté du producteur d'extirper le spectateur de son siège pour lui dire: tiens, je te fous dans un univers apocalyptique, démerde-toi avec ça, tu perds tous tes repères, tiens, tu es sous tension là, hein, allez, deviens un croc, un ennemi flou, un peu non identifié, oui, tu nous montres DMZ, mais ça c'est plus réaliste, on va dire, il n'y a pas de fantastique. Alors que Lost et Cloverfield, vraiment, c'est une dimension fantastique et une espèce de puissance supérieure qui s'abat sur les personnages comme ça. Et alors je pourrais dire que le film se divise en deux parties. Alors une première partie que j'ai vachement adoré, la deuxième partie que j'étais un peu déçu. Donc la première, bon, évidemment, au début t'as la fête, tu te dis bon, de toute façon ça va partir en couille parce qu'il y a le monstre qui va arriver, mais finalement tu t'y prends à suivre un peu les personnages qui font leur méga teuf là dans un appartement huppé de New York. Et alors bon voilà, tu t'attaches un peu à eux, et puis finalement il y a ce qui devait arriver arriva, donc il y a le monstre qui arrive, et là quand il y a il y a un mec, un pote au protagoniste qui filme la soirée, donc ils descendent tous, et là il y a une espèce d'écho en septembre qui arrive, puisque les images du 11 septembre sont réutilisées, donc t'as le zoom sur les tours qui sont en train de s'écrouler, il y a le fameux nuage de fumée qui envahit la rue avec le caméraman qui essaie de se réfugier dans une supérette avec des gens qui marchent dans la rue, enfin qui courent, et d'autres qui sont réfugiés dans la supérette. C'est exactement ce qu'on avait vu dans les reportages au moment du 11 septembre. Et donc ça, ce sont des petits clins d'œil qui font, enfin tu te dis ouais, c'est assez pertinent et tout. Après, donc, évidemment, tu sais absolument pas ce qui se passe à l'écran. T'as tout d'un coup, t'as les chars de l'armée qui arrivent pour balancer leur missile sur le monstre que tu vois plus ou moins crescendo quand même. Tu le vois à fond à la fin, puisque c'est comme tout bon film de monstre. Moins tu en montres au début, plus tu en montres à la fin. Il y a un autre procédé que j'ai trouvé absolument génial, c'est que le mec, il enregistre pas sur une cassette vierge, mais sur une cassette qui est en train d'effacer une autre vidéo. Et l'autre vidéo, justement, comme le film, c'est un périple.
C'est le truc brut, en fait. Hein.
Donc c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un document qui a été récupéré par l'armée, un document vidéo qui a été tourné pendant l'apparition du monstre, qui a pas été coupé, qui a été montré tel quel. Donc évidemment, au début, il y a Confidential avec une trame par dessus et tout qui disparaît. Hein, soyez rassurés. Et c'est pas monté du tout, c'est tel qu'il a été filmé au moment des événements. Donc justement, la cassette efface la première vidéo, et comme le petit groupe de protagonistes, à peu près 4-5, va récupérer, essayer de voler à la rescousse de l'ex-petite copine du héros, donc la cassette qui est en train d'être effacée, ben, c'est la cassette, la vidéo qui appartient au héros, même s'il ne filme pas, et c'est leur idylle en fait. Il avait filmé au saut du lit et dit oui, en train de se balader dans la rue, tout ça, c'est merveilleux. Et donc ça réutilise un peu le procédé de Irréversible, puisqu'on sait exactement ce qui se passe en ce moment, et un peu un retour, une vision paradisiaque du couple. Ça c'est vraiment un procédé vraiment vachement bien. Et à un moment donné, le mec il coupe la caméra, alors il y a les personnages qui disent ah, tu as vu le monstre, tiens, fais un rembobinage. Donc il rembobine, mais il rembobine quand il revient, donc il y a un peu un air ersatz de petite vidéo derrière qui réapparaît pendant 10 secondes, après ça repasse à la vidéo actuelle. C'est vraiment super bien. Et là vraiment c'est le climat de tension qui est totalement rendu. Alors là c'est la bonne partie, on va dire, puisqu'on peut voir aussi une espèce d'écho à l'Odyssée de Orphée qui va chercher son Eurydice, si on peut pousser un peu dans la mythologie, puisqu'ils vont aller dans le métro complètement détruit, dans les décombres, tout ça, pour essayer de récupérer, ils savaient même pas si elle est vivante ou quoi que ce soit. Et on entre dans la deuxième partie qui est un peu moins folichon, puisque je parlais d'Odyssée d'Orphée, ça aurait dû se terminer bien avant, et le film d'après moi continue un peu trop en fait. Et sans spoiler, on va dire qu'il y a un bon quart d'heure à la fin qu'il faudrait couper, puisque à un moment donné tu te dis bon là c'est la fin idéale quoi, non ça continue encore, c'est génial. Il y a aussi il faudra qu'on m'explique quand même un de ces quatre pourquoi les films américains qui font du genre monstres géants, pourquoi ils se sentent obligés de foutre des bébés monstres à la Alien qui gambade et qui dit attention, le monstre géant ça suffit pas, il faut aussi des petites bébêtes parce que
ça fait plus de produits dérivés.
Exactement. Alors que le monstre géant c'est quand même assez génial, c'est pas identifiable, tu sais pas d'où il vient, c'est un truc tu peux rien parce que tu sais que tu vas te faire écrabouiller si t'es à côté, alors que les petites bébêtes tu peux leur donner des coups de
prends pour ta maman, prends
voilà des bâtons en métal et tout, tu peux les buter, tiens c'est moins impressionnant alors en plus par contre là tu entres plus dans le gore, alors que quand t'es écrabouillé par la patte du monstre géant tu sais que t'es mort. Alors que là, il y a les je suis encore vivant, mais j'en ai pris pour longtemps, tu vois. Voilà. Et tu reviens évidemment dans le film de monstre un peu plus attendu et t'as un peu l'impression d'avoir déjà vu ça avant, alors que la première partie, non, justement. Et finalement, on pourrait dire que quand le film s'arrête à la fin, tu as un peu l'impression de t'être pas emmerdé, mais d'avoir déjà vu ça avec Blair Witch Project. Et puis le principe de la caméra de la vidéo enregistrée par un pseudo amateur, caméra brute comme ça de décoffrage, ça a quand même un peu tendance à lasser vers la fin, surtout que s'il se passe pas grand chose de nouveau après, voilà. Bon, moi j'ai été un peu déçu par le film, même si on peut pas lui enlever les qualités, mais franchement, moi je m'attendais à vachement mieux. Et encore une fois, le film, il fait 1h30, mais je pense qu'il aurait gagné à être encore plus court. Donc il s'agit de Cloverfield, réalisé par Matt Reeves et produit par J.J. Abrams, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours aller le voir, ça vaut quand même le coup, hein.
Voilà, et normalement les chroniques de Thomas ainsi que les chroniques bande dessinée sont retrouvables en écrit, en différé sur le site internet de l'émission suppléments-weekend.tk. Vous tapez supplément weekend sans accent sans tirer .tk dans votre navigateur web ou vous cherchez sur Google supplément weekend et on est le tout premier résultat en haut. Vous pouvez mettre FMR ou MP3 si vous êtes pas sûr, mais je suis content, j'ai grillé tout le monde.
Et c'est bien que tu utilises le mot normalement pour commencer à parler de ça, puisque ça fait quelques semaines que je n'ai plus chroniqué les films que je chronique à la radio.
Tu sais, des fois, il arrive même des fois de mettre en ligne les enregistrements du supplément week-end avec trois jours de retard.
Oui, ou même la veille de la prochaine, de l'émission d'après.
Mince.
Comme l'émission samedi dernier qui a été en ligne hier.
Mince, alors ça veut dire qu'ils ne savent toujours pas qu'on peut gagner des albums et des posters. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'émission et vous cliquez sur l'onglet poser une question à l'équipe. Et là, faites-vous plaisir. On gardera la meilleure qu'on gardera chaque semaine aura droit à des jolis petits cadeaux.
Voilà, ça peut être des questions pertinentes ou des questions à la con pour savoir tout de notre vie privée, puisque c'est la mode en ce moment. Qu'est-ce que vous envoyez comme SMS, tout ça.
c'est lui-même qui se met en retard. Midi 52 minutes sur la poubelle des radios, supplément week-end. Dus, c'est quand tu veux, non ?
Attends, je vais encore faire un petit aparté. Ouais, non, je regardais l'heure, 12h. 12h52, c'est toujours radio éphémère.
Juste au moment où j'ai plus de micro devant, il m'adresse la parole.
Bonjour Sylvain.
Oui, c'est à quel sujet?
Ouais, ce matin, l'état du studio était absolument déplorable. Il y avait un vomi sous la table, un webmaster complètement éteint et un Sylvain affalé. Une horreur, je vous dis. Dus.
Ouais, alors, de la télé à présent avec. Une série, c'est tout. Ouais, il y a pas grand chose. Non, mais bon, il y a pas d'inédit en fait, hein, du tout cette semaine, exception faite, ouais, d'un petit truc quoi. Enfin, je pense que tu pourras mieux en parler que moi d'ailleurs. Tout d'abord, des diffusions, des rediffusions, des changements de chaîne, c'est ça qui peut être intéressant. Ça sera très intéressant, par exemple, de pouvoir voir sur une chaîne de la TNT. Cette excellente série qui est Entourage, dont je vous parlais la semaine dernière.
Sur France 4. Hein.
Non, c'est sur W9.
Oh merde, excuse-moi.
Alors, Entourage, je vous en parlais la semaine dernière, à l'occasion de la diffusion des premiers épisodes de la saison 4 sur TPS Star, qui continue d'ailleurs sa diffusion de cette série. Entourage, saison 4, ce soir à partir de 22h30 avec l'épisode 3 et l'épisode 4. Alors on va récapituler vite fait ce qu'est cette série. C'est le parcours de 4 garçons dans la jungle d'Hollywood. En fait, c'est surtout le parcours du héros principal, Vince, interprété par Adrien Grenier, qui est la nouvelle coqueluche d'Hollywood grâce à son film Head On avec Jessica Alba en vedette. Il y a dans le gang également Eric, qui est son ami d'enfance et son manager, interprété par Kevin Connolly. Il y a Kevin Dillon qui interprète le rôle de Johnny, son frère aîné, qui est également acteur, mais acteur plutôt ringard. Et le quatrième larron, c'est Tuttle, interprété par Jerry Ferrara, et qui est un petit peu l'homme à tout faire du gang. Et donc, Vince, auréolé de son succès avec ce film d'action qui est Head On, se voit offrir toutes les possibilités tout le luxe que peut offrir Hollywood. Lui, qui est un petit garçon qui vient d'une banlieue pourrie de New York, du Queens, en l'occurrence, ça l'a fait un petit peu mieux. Alors, cette série est absolument magnifique parce que elle arrive bien à mettre en scène ce qui se passe à Hollywood, et avec en plus la participation réelle des différents protagonistes réels qui sont actuellement des assez gros pontes à Hollywood, ce qui fait que au niveau du guest starring, c'est une série qui tient vraiment la route, avec en plus guest starring des gens qui jouent leur propre rôle, hein. Il y a Dennis Hopper dans la saison 4, Malcolm McDowell dans la saison 2, Martin Landau dans la saison 3, James Woods dans la saison 3, Luke Wilson, Val Kilmer, Brooke Shields, Snoop Dogg, Jessica Alba, donc, qu'on voit dans l'épisode numéro 1, hein, dans le pilote, puisque c'est la co-vedette de Vince dans le film Head On, hein, qui le consacre vedette donc de Hollywood à part entière. Il y a également Snoop Dogg, donc Brooke Shields, j'en ai parlé, James Cameron, Peter Jackson, Sidney Pollack, Joel Silver. Ça veut dire que la série, il y a pas de problème. Bon, pourquoi ? Aussi parce qu'elle a été très bien produite par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. En fait, c'est plus ou moins autobiographique. Hein. Quand on connaît un petit peu la vie de Mark Wahlberg, on sait qu'il n'a pas été acteur toute sa vie. Il a commencé très jeune par zoner dans les rues. Ensuite, il a fait un petit temps mannequin, puis faisait partie des New Kids on the Block.
Son frère, je crois, d'ailleurs.
Ouais. Trop cool, hein.
Avec Donnie, ouais. Et Marky Mark. C'était Marky Mark. Ouais. Et donc, ce qui fait que cette série est tout à fait vraiment regardable, ne serait-ce que parce que bien on arrive à des sommets tels que le sommet dont je parlais la semaine dernière, qui aura lieu donc dans la saison 4, avec justement Denis Hopper, parce que les séquences qui ont été tournées un petit peu en catimini à Cannes lors du vrai festival, elles intègrent Denis Hopper, donc des épisodes à suivre très prochainement sur TPS Star. Mais là, c'est sur W9 que ça se passe, avec donc la rediffusion de cette série dans son intégrale à partir du début de la saison 1. Ce sera mardi prochain à partir de 20h45. Alors sinon, re-coup de gueule à propos de la programmation de TF1 du dimanche soir. Et on a retrouvé l'épisode 3 de la saison 7. Ça y est, il sera enfin diffusé. Il n'a pas été diffusé dimanche dernier, il n'a pas été diffusé le dimanche d'avant, alors que c'était le début de la diffusion de cette saison 7 des Experts Las Vegas. Et alors que bien la nouveauté dans cette saison 7, c'est bien entendu cette aventure, cette histoire de serial killer qui va durer sur toute la saison et qui est donc le fil rouge de cette saison, et qui a l'air d'être un petit peu délaissé, on va dire, hein, par la programmation de TF1, vu que l'épisode 3 donc de la saison 7 ne sera diffusé qu'en troisième partie demain soir. Tu vois, il aura fallu attendre 9 épisodes donc pour se taper l'épisode numéro 3, alors qu'on l'aurait eu en troisième position, c'est-à-dire en dernière partie de soirée, ça le faisait pareil. Parce que à l'argument sorti de dire que oui, mais c'est un épisode avec une catégorisation moins 12, alors c'est très dur, il faut le mettre en dernière partie de soirée. Si on l'avait diffusé dans l'ordre, 1, 2, 3, ça faisait quand même troisième épisode très tard le soir, le premier dimanche. Mais non, on a voulu faire 1, 2, 4, et eh bien tant pis, bon bah ce sera comme ça. Alors demain, le menu des experts sur TF1, c'est l'épisode 7 pour commencer à 20h50, qui s'appelle Maison de Poupée. Ensuite l'épisode 9. La légende vivante, faut dire que l'épisode 8, il avait été diffusé dimanche dernier. Et l'épisode 3, enfin, drôle d'endroit pour une rencontre, sera diffusé donc en troisième partie de soirée demain soir sur TF1. Alors là, la seule nouveauté, en fait, la seule série inédite, bien, c'est une série manga. Et ouais, tirée d'un manga dont je crois tu as parlé, me semble-t-il, qui s'appelle Death Note.
Oui, c'est Thomas.
C'est Thomas, tu vois. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce Death Note qui sera programmé à partir de mercredi prochain 20h sur MCM, la chaîne du manga.
Eh bien, c'est un jeune étudiant qui tombe sur un livre, un cahier, sur lequel on peut marquer des choses dessus. Et si tu marques le nom de quelqu'un, la personne meurt après. Et ce cahier a été laissé à l'attention des humains par des dieux de la mort dans l'au-delà qui se font chier grave. Et ils attendent de voir comment ce cahier sera utilisé par les humains. Donc il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs cahiers et que chaque humain va l'employer selon ses désirs, selon son âge, selon ses espérances dans la vie. Donc le gars qui tombe dessus, le héros, c'est un gars qui va se révéler un être machiavélique au possible, qui va se faire appeler Kira et qui va essayer de purger le monde de ses pires criminels. Et il va avoir à ses basques le plus grand enquêteur mandaté par Interpol qui s'appelle Elle et à l'identité mystérieuse. Il faut savoir que pour tuer quelqu'un, il faut connaître son nom et son visage. Sauf que Elle, personne ne connaît son nom. D'où la difficulté de le tuer. Et donc ça va être un jeu du chat et la souris. La série de manga comporte une douzaine de tomes. Et à chaque tome, tu penses que la série va s'arrêter parce qu'il est impossible d'en dire plus. Et à chaque nouveau tome, tu dis « Ah ouais, mais le mec, il l'utilise vraiment à 100%, mais oh putain !» Voilà, c'est une série de barges.
Ok, on vérifiera ce que donne la version animée. Donc c'est sur MCM à partir de mercredi prochain, 20h. Et c'est catégorisé moins 10 hein, quand même. Enfin, comme la plupart des mangas qui sont diffusés sur MCM. Ils en ont rien à foutre de les passer dans la journée, de toute façon.
Et la série animée a une excellente réputation. C'est considéré par même les fans du manga comme une série extrêmement fidèle.
Dans le programme télé, c'est pareil. C'est ce qu'ils notent également. Hein, c'est que les amateurs et les fans ont bien apprécié la série animée aussi. Donc, mercredi prochain, MCM, 20h, Death Note. À présent, bah, c'est tout pour les séries. Alors, deux thématiques, film de baston et soirée spéciale.
Ouais. Alors, on s'est dit, avant que t'arrives tout à l'heure, on s'est dit, du sport, allez, on va faire un pari, on va parler de la semaine sur la chaîne Action. Yeah. Mais non, on s'est presque trompé, ouais.
Oh, il y en a quand même un peu, hein, d'accord. Avec donc ouais, les films de baston, et paradoxalement il y en a pas tant que ça hein. Il y en a...
Baston.
Ouais ouais, c'est surtout ce week-end en fait hein, avec ce soir un inédit, un qu'on n'a pas vu de JCVD et qui retrouve un de ses réalisateurs fétiches hein, Sheldon Lethich. ouais. avec qui il avait fait je sais plus trop quoi, mais enfin bon, le chasse, non, le chasse à l'homme, c'est John Woo, ouais, celui juste avant, me semble-t-il.
Cavale sans issue.
Ouais, ouais, mais ouais, tout à fait. et bon, Sheldon et Teach, donc, qui fait en 2006, ouais, c'est tout récent, hein, JCVD, The Hard Corps. C'est ce soir sur Canal Plus décalé à 20h50, JCVD. Et il est garde du corps d'un boxeur, et il est vétéran de l'armée américaine, et il décide de fonder un corps d'élite. Mais malheureusement, une histoire sentimentale va compromettre ce projet. Il y a également, ce soir, Mort Subite, ouais, un autre JCVD avec Peter Iams, 81, mais
oui,
qui vaut le coup parce qu'il y a Power Book dedans.
Il se la joue MacGyver surtout, et le film est complètement plombé par le final incohérent.
Ouais, mais bon, il y a Power Book dedans, alors c'est bon. C'est sur RTL9 ce soir à 22h25, donc vous pouvez vous faire une soirée JCVD. Donc il y a également ce soir sur Energy 12 deux films qui peuvent être rigolos. Tout d'abord, eh bien, La Fuite de Plateau de James Beckett de 97 avec Gary Buzet et Roy Scheider, qui doit jouer le rôle du tyran que Gary Buzet va essayer de niquer, à mon avis. C'est sur Energy 12 à 20h45, suivi à 22h30 toujours sur Energy 12 de Armé et Dangereux de Kurt Voss avec Luke Perry, Ice-T et Richmond Arquette. D'ailleurs, t'as vu la famille Arquette comme ils sont nombreux.
Encore un autre frère.
Ah ouais. dimanche, demain, Portée disparue 2. Ça, c'est le film de Lance Hall avec Chuck Norris et Sonotech sur Action, justement, à 20h40. Et il y a un Steven, il y en a un seul dans la semaine. Et c'est pas le plus pourri en plus, hein, c'est Nico. Avec où il se fait Sharon Stone, là, tu sais.
Ah, je savais pas qu'il y avait chanson dedans.
Il y a Pam Grier aussi, quoi. C'est le Andrew Davis de 88, hein. Et il est également, donc, sur la chaîne Action. Demain soir, sur la chaîne Action, il y a Portée disparue à 20h40 et Nico à 22h30. Mais demain soir, il y a également, dans les gros classiques, on va dire, Opération Dragon, Enter the Dragon.
Hein, très bien.
Action, Jim Kelly. C'est sur TV Braze à 20h45 demain. Il y a également à 20h45 sur NT1 Dragon, l'histoire de Bruce Lee, le film de Rob Cohen qui est pas pourri. Il est pas pourri ce film,
il est
bien.
Il est très très bien.
Non, il est vachement bien, quoi. Enfin, il est pas vachement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est bien, quoi. Avec Jason Scott Lee, avec Lorraine Olly et Robert Wagner. Donc il y a également Bon baiser de Hong Kong. Ça, c'est les Charlots avec Mickey Rooney sur NRJ 12 demain soir à 20h45. Donc demain soir, vous avez le choix. Lundi, il y a l'expert. Ouais.
Ah, c'est bien,
ah,
ça.
Ouais, le Sly. Sly aussi se tape Sharon Stone. C'est le tapus. c'est sur TV Braze à 20h45.
Avec mercredi. Il y a James Woods surtout qui fait, qui cabotine à mort, mais ouais. Qui est génial.
Hein. Ouais, et Rod Steiger aussi, quoi. Mercredi, Nuclear Target, sur 13e.
Pardon, non, faut le faire. Nuclear Target.
Avec, Wesley Snipes et Emma Sams. Et vendredi, encore un slide, Judge Dredd, mais celui-là, il est pas.
Ouais, j'étais sûr que vous
alliez
dire ça.
Roy Scheider. Avec Roy Scheider, ouais. Et Armand Santé.
Pas du tout. Puisque c'est son anagramme, c'est Rob Schneider cette fois. Et c'est
Rob Schneider.
Voilà. Et c'est le gars
qui joue j'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Hein. C'est Rob Schneider. Ouais.
Celui pas de souci.
Celui qui jouait avec JCVD.
Voilà, dans Hong Kong.
Knock Off.
C'est ça.
Ouais, tout à fait.
Alors, tant qu'on parle de JCVD, Chris, hier sur la chat, m'envoie un message sur MSN qui me dit donc en ce moment, un épisode de Las Vegas qui vaut la peau de JCVD.
Oui.
Je dis attends, il est génial. Alors, j'allume la télé.
Et t'as vu le carton final?
Mais non, j'ai pas vu le carton final.
Mais si, c'est l'épisode où justement, en plus,
il se tue.
Oui,
il manque de se tuer.
Non, il se tue, mais en fait, c'est parce que comment il s'appelle? C'est le mec, un autre acteur, c'est John Cena, donc qui joue le rôle du patron des cascadeurs et qui a voulu tuer JCVD, qui arrive à le tuer justement, quoi. Et c'est lui qui est soupçonné et tout, quoi. Mmh. Et bon, heureusement que James Caan est là, parce que alors là, James Caan, il trouve tout de suite que c'est lui, quoi, tu vois.
Et surtout,
si, il est génial.
Surtout, c'est très très
JCVD,
drôle.
JCVD, il disparaît au premier tiers du film. Ok, il fait sa cascade, il tourne une scène donc dans le Montecito, le casino, et justement, quoi, il foire la cascade, hein, où il doit tomber carrément du.
Ouais, il y avait du sabotage aussi. Ouais, c'était pas sa faute.
Oui, mais ça fait rien. Et donc, tu vois JCVD. En plus, tu le vois qui tombe
en fond vert, ridicule. Ouais,
c'est génial, c'est absolument génial.
Et surtout, ce qui est très drôle,
c'est un des grands épisodes de cette série Las Vegas.
C'est le mémorial Fleury et le carton final. Aucun Jean-Claude Van Damme n'a été martyrisé ou maltraité pendant le tournage de cet épisode.
Avec John Cena également. Alors, on a fait les films de baston. Il me reste à faire les soirées spéciales. Vous savez que souvent les chaînes, surtout quand elles ont envie de faire du remplissage ou qu'elles ont dans les cartons des trucs qui dorment, ils se disent tiens, il y en a deux juste à un côté de l'autre. Oh mais c'est du même réalisateur. Tiens, bah on va faire une soirée spéciale sur le même réalisateur. Alors ça donne des trucs un petit peu zarbes comme demain soir. Attends, on va voir que je me tombe. Ouais, demain, ça commence demain soir sur Cinéfix. Soirée spéciale vendredi 13. Alors ouais, en plus ils te les passent pas dans le bon ordre chronologique, rien à foutre, tu vois. C'est... Alors demain soir Cinéfix vendredi 13, ça commence à 21h avec vendredi 13 chapitre final. C'est le 4 de le Josito avec Eric Anderson et Peter Barton, suivi du vendredi 13 le vrai, le seul, l'unique, le premier vendredi 13 le tueur du vendredi, le Steve Miner de 81 avec Amy Steele et John Furey, suivi du 2 vendredi 13, meurtre en trois dimensions, encore de Steve Miner. Steve Miner qui a été repris, qui avait fait Halloween le retour là. Hein,
fait, oui.
En plus, il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc à 23h55. Et Cinéfix vous propose non pas la même soirée, mais mercredi prochain à 23h, vendredi 13, une nouvelle terreur qui est en fait le vendredi 13 numéro 5.
Et le 3, non?
Non. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, désolé. Lundi, sur Arte, il y a une soirée spéciale Kieslowski avec bleu et blanc, mais il n'y a pas rouge.
Ah, c'est dommage, tiens.
Non, je te dis, ils font comme ça, ils font les programmations, ils regardent dans les tiroirs. Tiens, il y en a deux. Ah ouais, cool, c'est du même, vraiment, les francs et tout. Ils ont pas vu qu'il y avait une troisième derrière, mais c'est pas grave, quoi. C'est bon, ça le fait quand même, quoi. Alors, lundi, sur TPS Star, ça c'est une bonne soirée, avec tout d'abord Zoolander, et ensuite la femme mitaine est bonne, c'est Ben Stiller, le plus grand comique du monde. Avec dans Zoolander Ben Stiller bien sûr, Owen Wilson, et dans la famille Tenenbaum à 22h30 il y a Gene Hackman. Le film est pas mal, quoi, et Angelica Houston, c'est assez rigolo. Gene Hackman, grosse composition, quoi. C'est sur TPS Star donc lundi. Paris Première nous fait une soirée Johnny Depp avec deux bons films, Donnie Brasco à 20h50.
Oh oui.
Et le trop rare à la télé, surtout sur des chaînes accessibles, Las Vegas Parano à 22h50, suivi à 0h45 de l'Actor Studio avec Johnny Depp. Donc une soirée entière Johnny Depp lundi sur Paris Première. Mardi sur Ciné Cinéma Star, Jeff Bridges à l'honneur avec deux films. Tout d'abord le Wild Bill de Walter Hill de 95 avec Jeff Bridges bien sûr, John Hurt, Diane Lane et Ellen Barkin à 20h45, suivi de Tron, excellent film des studios Disney de 82 avec David Warner, Jeff Bridges et Bruce Boxleitner, avec les frisbees en 3D, les motos et tout, très bon film.
Tiens,
bon
alors
film.
Attends, je viens de regarder Xavier parce que tu parlais de Jeff Bridges.
Oui, mais j'ai pas suivi là, je me suis en train de me débattre avec les machines.
Tu sais que tu as Jeff Bridges sur ton t-shirt.
Ah ben excuse-moi.
Le dude.
Eh oui, mais d'ailleurs, tu es en pull, t'as pas de t-shirt.
Il a peut-être un t-shirt de geek dessous. Ah bah non.
Ah non, mais ça le vaut.
On peut pas le dire à la radio.
On peut pas le dire à la radio. Loi de 70, on peut pas.
100% naturel.
Ouais, oui, mais bien sûr.
Si. Alors, mercredi, sur Ciné Cinéma Frisson, soirée Al Pacino avec Scarface et l'Associé du Diable.
Ah oui.
À la série. Il y a également mercredi sur Ciné Cinéma Famise, Jane Kelly avec à 20h45 Chantons sous la pluie, à 22h25
ah oui,
Les Trois Mousquetaires de George Sidney, donc celui-là il a pas à louper, ça
c'est un classique, ça, c'est immense.
Ouais, y a rien à dire, hein. Lana Turner, Angela Lansbury, si, jeune, belle, appétissante, craquante.
Ah merde.
Si, c'est vrai en plus, hein. Et Vincent Price et bien d'autres. Donc il y a également mercredi sur Action, tu vois, une soirée spéciale Rudy avec le Crépuscule des Aigles, dont je vous avais déjà parlé deux ou trois fois, hein. C'est ce film où Rutger Hauer, il joue le rôle d'un officier allemand, et Miranda Richardson, celui d'une journaliste américaine. Et Rutger croyait qu'il faisait la guerre pour le bien et tout, mais il se rend compte que bon, ben, on fout des gens dans les camps de concentration et tout, ce qu'il ne savait pas et tout. Et bon, c'est assez rigolo, quoi. Ça se laisse tout à fait regarder. C'est suivi de l'excellent film de Paul Verhoeven, La chair et le sang.
Ouais.
Avec Jennifer Jason Leigh.
Ouais.
Ça, c'est mercredi prochain sur la chaîne Action. Et mercredi prochain sur Paris Première, une soirée Coluche. Alors, c'est pas du cinéma. Ça commence à 20h55 par un show Coluche de 74. À 21h50, une émission, alors ça c'est des émissions que vous connaissez pas, c'est normal. À bout portant, spécial Coluche de 77. À 22h35, Champs-Élysées, spécial invité Coluche. Ah, il foutait le why, lui, c'était pas triste. Hein. Et à 23h30, l'invité du jeudi, l'émission de 79 avec, bien sûr, Coluche. Tout ça sur Paris Première mercredi prochain. Et sur TF6, une soirée spéciale, les frères Scott. 6 épisodes, du 11 au 15e épisode de 20h45 à 0h50. Tout ça mercredi prochain, jeudi prochain. Sur TMC, on parlait de Roy Scheider, soirée Les Dents de la Mer avec le Spielberg à 20h45 et à 22h20 le Janos Park, c'est-à-dire Les Dents de la Mer, le retour, le numéro 2 avec
Dents de la Merde.
Ouais, avec il y a les mêmes sauf Richard Dreyfuss qui est plus pas dans le 2, hein, c'est-à-dire Roy Scheider. À son âme.
Il a eu honte.
Lorraine Gary et Murray Hamilton. Et c'est suivi. Alors, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a Les Dents de la Mer à 22h20. Il y a Les Dents de la Mer 2 sur TMC jeudi prochain. Et à 0h15, il y a Alerte aux requins avec Casper Van Dien et Ernie Hudson. Là, ça va charcler.
jeudi
prochain. Ouais, bah oui.
C'était préparé.
Jeudi prochain. Jeudi prochain également sur TF6, une soirée Jackie Chan avec tout d'abord, je voulais te faire un quiz et je l'ai loupé là quoi. Ah. Tout d'abord le médaillon, ouais d'accord, avec Julian Sands entre autres, hein, le Gordon Chan de 2003, suivi de Jackie Chan sous pression à 22h30.
Alors, pas
celui-là, c'est celui où il est pilote, il doit gagner une course automobile, je sais pas si tu l'as déjà vu.
Ah c'est pas Thunderbolt avec... Non.
Non, si. Je crois qu'il en avait fait plusieurs justement, quoi. Et ça, c'est le plus récent, avec Michael Wong et Anita Yuen.
Ah, que du bon.
Et bon, c'est pas mal, ça. Se laisse regarder, mais enfin, il me semble qu'il est également diffusé sous un autre titre, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plantage.
Quand tu dis Jackie Chan, ce
sous pression.
D'accord.
Voilà. Et j'ai pas noté la date, mais il est assez récent, quoi. Et bon, on voit qu'il est assez vieux d'ailleurs. Il fait moins de cascades, hein. Il y a pas mal de cascades automobiles qui sont très rigolotes, quoi. Enfin bon, c'est rigolo, quoi.
De toute façon, il prouve toujours qu'il est le meilleur quand il revient chez lui, hein.
Ouais, avec ses productions, ouais, non, mais c'est pas chinoises. Mal. Mais là, le Jackie Chan sous pression, c'est vraiment un mélo, on va dire. Mmh. C'est pas vraiment un film d'action.
Hein.
Et vendredi, on a un spécial Columbo sur TV Braze avec deux gros Columbo, deux bons Columbo. Déjà, le dernier en date. Réalisé et avec Patrick McGowan, hein, c'est celui de 78 en grande pompe avec Sally Kellerman également, hein, Sally Kellerman, rappelez-vous, MASH,
ah, oui.
Lèvres de feu. Ah bon, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. En grande, donc avec Patrick McGowan, entrepreneur de pompe funèbre, je sais pas si vous vous rappelez, qui crame le corps de. Bon, ok.
D'ailleurs, McGowan, il en a fait deux méchants, non ?
Trois ou quatre, quoi. Donc deux en militaire. et celui à 22h30 de Poids Mort, un Columbo de 71, hein, c'est un des premiers avec Eddie Albert, et qui est vraiment très très bien celui-là aussi. Et c'est pratiquement tout, non, il faut quand même que je vous parle du film de la semaine, ça y est, il est rediffusé, et en plus, en première partie de soirée, Le Chat qui venait de l'espace, le film de Nokar Tokar de 78, avec Ken Berry, Sandy Duncan, Harry Morgan et Roddy McDowall. C'est l'histoire d'un chat, en fait, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui échoue sur Terre parce que il plante son vaisseau. Et pour continuer à pouvoir vivre en dehors, il est obligé de prendre de rentrer à l'intérieur d'un être vivant. Et donc, le premier qu'il trouve, c'est un chat. Et...
Qu'est-ce que ça serait, tu sais, si c'était et un épagneul breton.
Tout à fait regardable. Donc, Le Chat qui venait de l'espace. C'est jeudi, vendredi prochain sur Sci-Fi à partir de 20h45. En version multilingue, s'il vous plaît.
Grand Dieu, quel chef-d'œuvre!
Ah, le chat parle à extraterrestre, donc c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il raconte. C'est tout.
Ah, et ben, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt d'être fini avec plein de soucis techniques, mais on a fait 100. Et voilà, et donc ainsi se termine le supplément week-end numéro 145. Déjà, waouh! Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire un résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je te prie?
Eh bien, on me fait signe en régie que nous avons loupé une revue de presse qui est sous nos yeux là. On a eu un plantage de lecteur CD, on a eu un JCVD inédit du film de Basson, un JCVD qui foire une cascade, du Jean Reno dans une BD, des geeks avec des t-shirts, du chimpanzé dans l'espace, et du chat aussi dans l'espace, du chant de trèfle, de la musique de Godzilla, du Kislovski dans Vendredi 13, alors j'ai pas très bien compris, du Rugi. De la Sharon Stone qui se tape Stallone et Steven Seagal, et du Patrick McGowan qui fait un méchant militaire. Alors c'est quoi les images que tu montres, hein?
Phil Jimenez qui a fait un épisode de Spider-Man assez ahurissant. Non. Je vais y arriver. Nom d'un bulldozer ambulant. Ils ont lompé tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives. Laissez vos commentaires, posez vos questions, gagnez des cadeaux, réécoutez les émissions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web et taper supplémentweekend.tk. Vous cherchez tout simplement supplément weekend FMR ou supplément weekend MP3 et vous allez tomber dessus. La suite des programmes sur Radio FMR avec votre cahier sportif immédiatement à 15h du reggae avec Jazz Not Dead, 17h Big Bang, 18h Made in Trance, c'est un peu n'importe quoi musicalement je veux dire, mais non ça peut être pire, il y a Happy Hour à 19h, à 20h30 le retour de Jésus dans la Cetero Experience, à 21h du Two Step avec Neuf Love, et à 23h le potager c'est du live. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net et on est en train de mettre en place les réécoutes à la demande, la radio à la demande, comme vous voulez, quand vous voulez. Voilà, c'est super la vie. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine, on va vous laisser, c'est du sport qui prend la suite, donc ciao, bye bye,
salut,
à plus.
Vous êtes tout pourri.